Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour.
L'invité du jour, c'est Marie-Sophie Lacaro. Bonjour. Marie-Sophie Lacaro, merci d'être avec nous ce matin. On vous attendait, hein, ça fait un petit moment qu'on vous attend.
Je suis très contente d'être avec vous.
Eh ben, on est ravis, vous allez nous dire. Vous avez un petit accent du Sud.
Oui, un petit.
Sud Radio, vous connaissiez.
Ah, Sud Radio, je connais bien. Il y a encore quelques années, c'était ma radio quand j'allais au travail. Voilà, ouais, quand j'étais sur la route de France 3 Midi-Pyrénées, puisque c'est là que je travaillais il y a 6 ans.
Ouais.
J'écoutais Sud Radio, c'était ma radio.
Donc depuis le 4 janvier, vous êtes à l'antenne à 13h tous les jours dans le fauteuil de Jean-Pierre Pernaut qui est devenu votre fauteuil aujourd'hui. Donc là c'est la rentrée, ça fait une petite semaine que vous avez repris.
C'est bien de démarrer une saison, voilà, j'en ai terminé une, maintenant j'en démarre une et puis on va aller au bout de celle-ci. On est très contents parce que voilà, 6 mois sont déjà passés et puis là je m'installe bien,
Il y a eu un petit peu de trac.
Ça y est, c'est bon.
On se demande si on est légitime à un moment ou pas au début.
Alors, on se demande pas si on est légitime parce qu'on se dit que si on est venu me chercher, je me dis qu'ils avaient quand même mûri leur réflexion. Mais forcément, on se rend compte aussi que c'est un énorme challenge et un énorme défi de succéder à Jean-Pierre.
Oui, parce que c'était un poste très convoité. Enfin, moi, pour avoir été à TF1, j'entendais toujours des gens qui espéraient peut-être un jour.
Ça a fait couler beaucoup d'encre. Le jour où Jean-Pierre arrêtera.
Ça s'est très bien fait, cette transition.
Elle a été très 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 bien préparée. En tout cas, moi, on m'a laissé le temps d'arriver, de rencontrer les équipes. Voilà, on m'a pas propulsée à l'antenne dès le premier jour. J'ai eu le temps de me préparer, de travailler, d'aller rencontrer tous les correspondants.
Vous avez fait quelque chose de formidable. C'est le tour de France,
c'est
et le tour des correspondants. Oui. Et peu de gens font ça, aller à la rencontre.
J'ai eu le temps de pouvoir le faire. Et effectivement, je suis allée rencontrer tous les correspondants de TF1 en région. On est allé dans chaque bureau. Alors parfois, on leur a demandé de se concentrer un petit peu parce que c'était compliqué d'aller vraiment partout dans tous les bureaux, mais oui, j'ai pris le temps d'aller discuter avec eux, de me présenter, parce qu'il fallait eux aussi qu'ils sachent qui ils allaient avoir en face et qui allait lancer leur sujet et qui allait leur poser des questions pour les duplex. Et moi, j'avais besoin aussi qu'ils me parlent de leur région, des incontournables chez eux et de l'histoire qu'on allait continuer d'écrire ensemble.
Est-ce que vous savez pourquoi on vous a choisi, vous? Vous êtes posé la question. Est-ce qu'il y avait ce côté de proximité?
Le côté proximité, le côté région. Mmh. Voilà, on a déjà dit le mot plusieurs fois.
Ouais.
Je me suis formée en région. J'ai fait mes débuts en région. C'est là que j'ai signé mes premiers reportages. Et j'aime les régions. J'aime ma région, mais j'aime toutes les régions.
Donc je
dois avoir un côté terroir.
C'est pas péjoratif de dire que vous êtes provinciale.
Ah, pas du tout. Alors en tout cas, moi je le prends pas du tout comme...
Est-ce que vous êtes comme Jean-Pierre Pernaut qu'on a reçu juste avant l'été, qui déteste le mot territoire?
Ah oui, oui, je préfère parler de région, terroir. C'est plus joli, terroir.
Ouais. Que territoire.
Oui, que territoire, voilà. Ça fait très... C'est très parisien, finalement.
Et avant d'avancer dans l'interview, puisqu'on est un peu, on raconte un peu comment vous êtes arrivé à TF1, on peut dire que France 2 a été très inélégant quand même dans leur démarche. Est-ce qu'il y a eu une vraie souffrance de votre part?
Non. Alors, il y a des souffrances bien pires que celle-là. Ça m'embête, en fait, de revenir sur ce qui s'est passé il y a quelques mois. C'est passé. Oui, j'aurais bien aimé pouvoir dire au revoir aux téléspectateurs, mais franchement, c'est derrière maintenant. C'est derrière, on avance. Ouais. Maintenant, je suis consacrée
sur ça. Et vous regardez ce que fait Julien Bugier ou
jamais ? Non. Alors, je ne regardais pas ce que faisait Jean-Pierre avant, donc je ne regarde pas davantage ce que fait Julien maintenant. Je suis assez concentrée sur ce que j'ai à faire.
Ouais.
Oui, c'est ça. J'ai mon chemin, j'ai ma route avec mon équipe, avec la rédaction, avec les correspondants, ça suffit.
Alors, la première fois qu'on vous a vu à la télé, c'était quand ? Vous vous souvenez de votre première télé ?
Ma première télé... Oui, c'était pour soit un plateau sur la Reine d'Angleterre qui était de passage à Toulouse, soit un
La Reine d'Angleterre est venue à Toulouse ?
Oui, monsieur.
Oh, incroyable.
soit un plateau sur une ligne à haute tension dans les Pyrénées.
D'accord.
Donc c'était un duplex.
Oui. Ça, c'était la...
Et une présentation de journal. Alors ça, évidemment, c'était pendant les vacances de Noël. Hein. C'est là qu'on teste les petits nouveaux. Et donc c'était un Noël, je vous dirai plus l'année là, je sais pas.
D'accord, mais vous vous souvenez pas.
Non.
Vous vouliez faire quoi quand vous étiez petite ?
Alors quand j'étais petite, je voulais être journaliste, mais je voulais être journaliste de terrain. Je voulais aller sur le terrain, je voulais ouvrir les portes, je voulais aller partout et je voulais pouvoir poser toutes les questions qui me passaient par la tête. Donc c'était du terrain. Jamais j'avais imaginé présenter un journal. Puis c'est le hasard qui a fait ça. Et je suis très heureuse aujourd'hui. Parfois, le terrain me manque. Ouais. Il arrive encore des moments en conférence de rédaction où quand on lance un sujet, je me dis... Celui-là, je l'aurais bien fait quand même.
Mais est-ce qu'il y a une vraie différence entre la rédaction de France 2 et TF1 que vous avez découvert, puisque vous avez ces deux expériences? Est-ce qu'il y a une chaîne qui donne plus de moyens ou plus de liberté?
C'est surtout une organisation différente par rapport au 13h. On dit que ce 13h de TF1, c'est le journal des régions, et c'est vrai qu'à 80%, il est construit à partir des reportages de nos correspondants en région. Sur France 2, ce n'était pas le cas, on n'était pas dans cette proportion-là. Elle est là, la principale différence. Donc, on est en lien constant avec ces journalistes qu'on ne voit pas, mais on les a tout le temps au téléphone, voilà, pour leur commander des sujets, que nous fassent leurs propositions. Non.
D'accord.
Non.
D'organisation.
Oui, on reste sur des rédactions nationales. Ouais. Non, enfin, en tout cas, moi, je ne vois pas... L'organisation à la base n'est pas la même.
Moi, je voulais continuer mon petit quiz, parce que c'est la première fois que je vous reçois. D'habitude, je pose des questions autour de la télé. Quelle téléspectatrice êtes-vous? Qu'est-ce que vous regardez, vous, à la télévision? Ou alors maintenant, on ne doit plus dire à la télévision ou sur les plateformes. Vous la regardez comment, la télé?
Alors, je la regarde peu.
Ouais.
Voilà. J'ai toujours l'habitude de dire que j'y travaille, mais je la regarde peu.
Il y a combien de télé chez vous?
Une seule. Ouais.
Elle est où?
Une seule, elle est dans le salon.
D'accord.
On la regarde en famille pour les informations. Ensuite, on est très série.
Ouais.
Et ensuite, quand c'est des magazines ou autres, je me les regarde en replay. Mais c'est vrai que je suis peu télé, je suis plus radio. Mmh.
Pas Danser avec les stars, pas The Voice, pas Koh-Lanta. Tout ça?
Allez, je l'avoue, Koh-Lanta.
Ah.
Koh-Lanta.
Ouais.
Ça va me faire coucher tard, cette histoire.
Voilà.
Le mercredi matin, j'aurai des petits yeux, comme bon nombre d'entre nous.
Voilà. Mais vous suivez
Koh-Lanta. Mais ça, c'est parce que c'est une histoire de famille. Oui, c'est avec
Quel âge ils ont,
la famille, les enfants? Ils ont 14 et 19.
Ah oui, d'accord. Ah oui. Donc, ils sont... c'est plus l'âge où on dit qu'est-ce qu'ils ont le droit de regarder ou pas à la télé.
Mais non, on est passé dans autre chose.
On est passé à autre chose. Le souvenir d'émission, que vous avez une émission culte pour vous?
Ça va vous faire rire. Je vous adorais dans Froufrou.
C'est gentil.
Qu'est-ce que je vous ai regardé?
C'était une vieille émission.
J'ai dit face à Valérie Expert qui me pose cette question, je suis obligée de lui parler de
Froufrou. C'est gentil, c'est la première fois qu'on me répond ça, donc c'est gentil. Donc émission culte. Voilà. Est-ce qu'il y a une... Donc vous avez été rarement invité? Si, vous avez été beaucoup invité dans des émissions?
Très peu.
Pas très peu.
Non.
Parce qu'il y a une des questions que je pose qui est l'émission où vous n'auriez pas dû aller.
Pour le moment,
ça tombe bien.
Tout va bien jusque-là.
Ce qui vous énerve à la télévision, justement, il y a des choses qui vous agacent?
Il y a une certaine forme de télé-réalité que je ne regarde pas et qui ne m'intéresse pas. Ce serait bien qu'on passe plutôt... Le temps qu'on passe à regarder ces émissions-là, qu'on le passe à autre chose, à réfléchir sur autre chose, ce serait peut-être bien.
Et fabriquer un journal, pour vous, c'est quelque chose d'excitant, Quelle est la part du présentateur et la part de la rédaction? Est-ce que vous choisissez que nos auditeurs comprennent comment on fait un 13h?
Alors déjà, on se retrouve dès 7h30, voilà, par exemple, on se retrouve dès 7h30 avec l'équipe du journal, donc la rédaction en chef. Et là, on commence à... Alors, on arrive évidemment avec nos idées, chacun avec nos idées. Parfois, elles se recoupent, parfois moins, donc on cherche à se convaincre les uns les autres. On commence à appeler nos correspondants qui nous font aussi des remontées de terrain. Dans ma région, on parle beaucoup de ça. Chez moi, c'est ça le sujet du jour. Et à partir de là, on fait nos choix et on bâtit un journal. C'est un des moments que je préfère. Celui-là et celui où on écrit le journal.
Et vous avez le temps de regarder chaque sujet qui passe dans le journal? Ou vous n'avez pas tout visionné pour continuer la question de Valérie?
Parfois, c'est compliqué quand ils arrivent très tard. Il y a des sujets qui arrivent pendant le journal. Donc évidemment, cela, je ne peux pas les voir. Mais tous ceux qui sont prêts avant le journal, j'essaye de les regarder. J'y arrive le plus souvent possible. Voilà, c'est juste ce qui arrive au dernier moment. Là, c'est plus... c'est impossible.
C'est plus... vous êtes obligé de les... Comment vous avez géré le Covid? Parce que les médias ont été beaucoup interpellés, critiqués, vilipendés. Vous faites attention à la manière dont vous dites les choses et...
Oui, moi, en tout cas, j'ai toujours... chercher à ne pas rajouter de la confusion là où il y en avait déjà énormément. On s'est tous retrouvés dans une période très complexe, très compliquée, très difficile pour ceux qui ont perdu un proche. Et donc moi, on se souvient tous de cette période où il y avait des études qui n'arrêtaient pas de sortir. Et un jour, une étude disait A, et le lendemain, une autre étude disait B. Et donc moi, j'ai toujours dit aux équipes, non, on n'y va pas. On n'y va pas parce que ce qu'on va dire aujourd'hui va être contredit demain, donc restons sur ce que l'on sait. Et pareil, je n'ai pas voulu de ces sujets où où on se faisait plaisir à poser des questions, mais sans avoir les réponses.
Ouais.
Non, voilà. Moi, j'ai cherché à essayer d'apporter une information
factuelle,
et qui permette aux téléspectateurs de comprendre où on en était. Mmh. Et que lui aussi se rassure quelque part dans cette période extrêmement trouble, et c'est pas terminé.
Quel rapport vous avez avec les réseaux sociaux ? Est-ce que vous les regardez ? Vous êtes...
Je suis pas très active. Alors Twitter, j'y suis parce que... parce qu'on a un métier qui fait qu'effectivement, il y a aussi des choses intéressantes parfois qui s'y passent. Mais... Je ne vais pas lire les commentaires.
Non, c'est ça, voilà. C'était ma question.
J'avais bien compris. Ouais. Non, à la sortie du journal, je ne vais pas lire les commentaires sur Twitter. Après, j'aime bien Instagram pour partager des moments avec les personnes qui me suivent, montrer les coulisses. J'aime bien aussi désacraliser notre métier. Et voilà, montrer dans quelles conditions on travaille.
En tapant votre nom sur Google, le premier truc qui sort, là, elle serait en bisbille avec Anne-Claire Coudray pour présenter
le 20h. J'ai lu ça.
Et en fait, tout ça est parti de rien, en fait, quand on lit l'article. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui...
Il y a eu un article dans Public, en plus.
À partir de rien, c'est une question qu'on vous pose, est-ce que vous aimeriez présenter le 20h ? D'un seul coup, ça devient, elle va présenter le 20h.
C'est incroyable. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. Ouais.
Mais
effectivement.
Avouez-le, vous voulez faire le 20h.
Mais c'est incroyable. On dit quelque chose et c'est effectivement récupéré par une certaine presse et c'est monté en épingle, détourné, sorti de son contexte. Là, ce qu'on est en train de se dire... Dans deux jours, il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose. On n'aura pas vu venir.
Mais ça, c'est plus du journalisme.
Ah, mais bien sûr que non. Bien sûr que non.
C'est la course au clic.
C'est une plaie parce que, comme vous dites, le titre est accrocheur. Donc certaines personnes vont rester sur ce titre et se dire ah, la Caro veut piquer la place de Coudray. Impossible, mais c'est n'importe quoi. Et il y a les personnes qui vont prendre le temps d'aller lire, mais en fait, il ne faudrait même pas. Ouais. Et là, elles vont se rendre compte qu'il n'y a
rien. Et vous vous téléphonez dans ce cas-là ? Qu'est-ce qui se passe ?
Non, alors là, vous me l'apprenez, je ne savais pas.
Ah bon ?
Mais non.
C'est dans Public.
Je ne lis pas. Alors, je ne vais pas voir Twitter. Ah non, mais je ne lis pas Public. Et puis je vais même pas chercher la.
On parle de vous pour le 20h, sachez-le.
Sachez que je n'en parlerai même pas avec Anne-Claire parce que c'est même pas un sujet.
Ouais.
C'est même pas un sujet.
Vous voyez avec Anne-Claire Coudray, puisqu'elle est là le week-end.
Ouais. Bon, avec Gilles et Anne-Claire, on se croise. Oui, bien sûr, on se croise dans les couloirs.
Gilles Boulot, je ne suis pas dans cette histoire.
Gilles Boulot et Anne-Claire Coudray.
D'accord.
Oui, bien sûr, on se croise.
Vous vous entendez formidablement bien, forcément.
Mais on s'entend bien et on a plaisir à se croiser quand on le fait et quand on se voit, on parle de tout sauf du boulot. Comme des collègues.
Qu'est-ce qui se passe une fois que le journal est terminé ? Ça y est, c'est à 14h, vous pouvez faire tout ce que vous voulez.
Ils vont déjeuner à la
cantine. Mais tellement pas, mon bon monsieur.
Elle est mieux, la cantine de TF1 ?
Alors,
que par rapport à celle de France 2, elle est mieux, la cantine ?
Je déjeune rarement, parce que l'heure est passée, et voilà, je grignote plus qu'autre chose, et je me rattrape le soir.
Que Jean-Pierre, on le croisait à la cantine de TF1 à 14h. Jean-Pierre déjeunait en général après le 13h.
Mais sinon, non, la journée n'est pas terminée à 14h. On fait une petite pause et puis on se retrouve dès 15h, 15h30 pour préparer le journal du lendemain. Le 13h, il fait 43-45 minutes. Si on attend le matin même pour lancer des sujets, il n'y a pas de 13h. On amorce énormément de sujets la veille.
Ouais, le petit accent qui vous reste, c'est énormément de charme, mais on ne vous a pas demandé de le gommer.
Non, on ne m'a pas demandé de le gommer. On va dire il y a deux catégories, des personnes à qui ça plaît, des personnes à qui ça ne plaît pas.
Mmh. Ouais. Donc c'est qu'il y a des gens qui critiquent.
Bah oui,
forcément.
Bah oui,
forcément.
Ouais. Bon. Non, mais vraiment, que des gens critiquent votre accent.
Alors, c'est très marrant, à chaque fois que je dis ça dans une interview, ah bon, on vous critique sur votre accent, je reçois plein de courriers de soutien derrière, donc merci.
Voilà,
j'aurai plein de courriers à lire.
Ça risque d'être repris en titre,
gens qui...
triste, malheureuse, parce qu'on lui a...
Exactement. Vous l'avez.
Non, je connais, je pense que je vais pas me recycler. Quand vous étiez sur France 2, vous aviez d'autres émissions, vous aviez Prodige, entre autres. Est-ce que sur TF1, c'est envisageable
pour le moment, c'est pas un sujet pour le moment. Le 13h est déjà assez prenant.
Il va pas filer la place à tout le monde.
Non. Non, non, mais c'était le cas aussi sur France 2, vous faisiez le 13h.
Oui, c'est vrai, donc, c'est vrai, c'est vrai. Mais on va dire que j'étais un peu plus installée, ça faisait plusieurs années que je faisais le 13h. Là, je me concentre.
Mais ça vous plairait de présenter un autre type d'émission?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Là, ça va être
voilà. Donc là, elle veut une émission.
Veut piquer la place de...
Exactement.
De Nikos.
Voilà, donc non, mais effectivement, c'est toujours agréable de varier,
de changer un petit peu d'horizon.
Le journal, j'adore, il est très corseté, c'est bien aussi parfois de sortir
qu'est-ce que vous aimeriez ? Vous avez une idée de...
Non, mais le côté divertissement...
Ouais, pourquoi pas ?
Candidate à Danse avec les stars.
Oh, mais c'est pas possible.
Non, mais vous savez danser, vous aimeriez danser...
Ah, j'ai fait beaucoup de danse quand j'étais petite. Classique, jazz, contemporain...
Et ben voilà.
Mais donc, non.
Ça vous
mais
plairait ?
Non, mais... je ferme les portes à tout.
C'est pas grave, parce que le titre dans le journal, ça va être Marie-Sophie Caro danse, non, peut-être en danse, et puis ça va être à la fin de l'article, non, elle a dit non.
Voilà,
donc voilà. Mais mais pourquoi pas là...
Non, et puis là, en même temps, voilà, du côté du journal, on a une actualité, une rentrée très, très, très chargée.
Oui, et puis ça va être une année chargée.
C'est une année présidentielle en plus.
Qu'est-ce que vous allez faire, justement, au 13h pour l'année présidentielle ? Vous avez évoqué, et on sait que le journal de 13h est un journal de proximité.
Absolument.
Avec beaucoup de sujets en région.
Oui.
Comment vous allez traiter cette présidentielle à 13h ?
On va évidemment être présent et on va prendre toute notre place. On va y aller crescendo maintenant. On ne va pas démarrer tout de suite des rendez-vous très, très tournés vers la présidentielle. Mais moi, ce dont j'ai envie en tout cas, c'est qu'on continue d'être dans les régions comme on l'est et puis aller chercher la parole des Français.
Ouais,
eux,
ouais.
Qu'attendent-ils ? Que veulent-ils ? Comment la voient-ils cette présidentielle ? Quels sont les sujets qui comptent pour eux quand une ou deux propositions, quand les programmes seront établis et que des propositions sortiront du lot, on verra aussi ce qu'ils en pensent. Voilà, mais ça sera toujours mettre le téléspectateur en avant.
Dans la proximité.
Oui.
Bon, bah vous êtes parti pour combien ? 40 ans de journaux, comme disait Jean-Pierre.
40 ans, je ne fais pas le calcul.
Non, vous êtes mis une date, c'est ce qu'on dit en général. Vous venez de commencer, donc
oui, ça
va.
Oui. Pas du tout.
Mais je sais que c'était toujours la question qu'on posait Patrick Poivre d'Arvor ou à Jean-Pierre Pernaut à chaque fois. Vous prenez les choses comme elles viennent.
Oui, alors j'ai toujours fonctionné comme ça, effectivement. Oui, je vais prendre du plaisir au jour le jour. Et puis,
vous avez été surprise quand on est venu vous chercher ? Enfin, surprise, oui et non, parce que on vous avait proposé Automoto. Il y avait une logique dans le... Il y avait
encore
une logique,
que dans encore mes débuts, que... si vous cherchez,
on peut trouver des sujets.
Oui.
Autre grand titre, je rêve d'animer un magazine automobile.
Non, est-ce que j'ai été surprise ? J'ai déjà été surprise d'apprendre que Jean-Pierre allait arrêter le 13h. Et j'ai été flattée.
Ça
se passe comment ? On vous voit les patrons dans un restaurant caché.
Oui,
vous voyez
c'est plutôt discret comme rencontre. Oui, ce sont des rencontres plutôt discrètes, qu'on n'ébruite pas. Et puis voilà, on
ça
en parle
dans un restaurant.
En catimini. C'était pas dans un restaurant.
Il n'ira pas ouf. Et après, vous l'avez gardé pour vous et votre conjoint,
ma famille très proche.
Voilà. Donc ça a dû être compliqué une fois que vous avez pris la décision.
Oui. On patiente.
Mais on jubile.
On est excité.
Oui, bien sûr. On est. Oui. On est excité, on jubile.
Voilà. Oui. Écoutez, continuez de prendre du plaisir. Nous, en tout cas, on est ravis de vous avoir reçu, puis content de vous voir aux 13h.
Merci à vous.
Qui cartonne, on peut le dire. Les audiences sont au rendez-vous.
Oui.
Le journal de TF1 est au top.
En moyenne, même cet été, c'était plus de 41%.
Oui, mais c'était pas Marie-Sophie, vous êtes gentille.
Non, la retour de cette semaine, la semaine dernière, ça a été plus de 4,8 millions. Bah oui, quand même, madame.
Ouais.
Et 41% de part de marché.
Oui, il est sympa, votre duo.
Ouais, il est sympa. Et il y a Jacques Legros qui a très bien marché.
Absolument.
Mais
bien sûr. Jacques a fait un très bel été, très mobilisé.
Voilà. Merci beaucoup, Marie-Sophie Lacaro.
Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping.
Alors Valérie, j'ai regardé la télé pour vous.
Oui.
Eh bien, hier soir, il y avait Joe Biden à la télévision, il s'est adressé à la nation. Et pour lui, il n'a fait que tenir sa promesse électorale. Je parle bien sûr
l'Afghanistan.
Remettez-moi un petit rouge.
L'Afghanistan.
Et pour lui, alors c'est un sujet sérieux, donc je reprends mon sérieux. Et pour lui, la guerre est finie.
Chers Américains, la guerre en Afghanistan est aujourd'hui terminée. Je suis le quatrième président qui a été confronté à ce choix. quand mettre fin à la guerre. Lorsque j'étais en campagne, je me suis engagé envers le peuple américain, engagé à mettre un terme à cette guerre. Et aujourd'hui, je respecte cette promesse de campagne. Nous n'avons plus d'objectif clair ou une mission ouverte en Afghanistan. Après 20 ans de guerre en Afghanistan, j'ai refusé d'envoyer une nouvelle génération de filles et de fils.
Évidemment, les journaux américains ont beaucoup titré sur le fait qu'il a peut-être sauvé cette nouvelle génération. De son côté, écoutez bien, Valérie, c'était dans C'est à vous hier.
Il y a beaucoup de protestations, pardon, aux États-Unis.
Bien sûr, oui.
On l'a évoqué hier, de vétérans même qui s'organisent.
Mais c'est justement pour ça qu'il, par rapport aux vétérans, qu'il dit « je ne voulais pas de nouveaux vétérans ». Et ça a été un peu sa doctrine d'hier. De son côté, hier, Bernard-Henri Lévy était sur C'est à vous. Écoutez bien, Valérie, il a témoigné du vrai visage des talibans, où les exécutions et les décapitations ont démarré depuis longtemps.
Ils ont déjà fait le contraire. Par exemple, la musique. Ils ont assassiné, il y a quelques jours, quelqu'un que je connais. Il se trouve que je l'ai connu en 2002, quand j'étais l'envoyé spécial de Chirac en Afghanistan. Il s'appelait Monsieur And Arabi, Fawar And Arabi. Il a été exécuté dans des conditions abominables. Pourquoi ? Parce qu'il était musicien. Là, il y a 10 jours, il y a un caricaturiste qui s'appelle Kashas Zvan. Il a été torturé à mort, lynché à mort, lapidé. On lui a cisaillé les muscles des bras. Et ça encore, il y a quelques jours.
Et oui, plus de musique, plus de dessin, plus d'humour. Ça a chauffé sur C8 hier, Valérie. Je ne sais pas si vous avez vu cette séquence où Cyril Hanouna recevait Michel-Ange Fiori, celui, vous savez, qui est à l'origine de l'affiche où Emmanuel Macron a été caricaturé en Hitler. Eh bien, il a fait face à la colère d'Éric Nolot.
La question du débat, c'est est-ce qu'il faut punir la bêtise ? Parce qu'il faut quand même en tenir une sacrée couche pour insulter la mémoire des millions de personnes qui ont été exterminées.
Mais non, monsieur, mais on vous a refilé ça comme élément de langage.
Il faut en tenir une sacrée couche.
C'est la Macronie qui vous a refilé ça comme élément de langage.
Mais j'ai pas besoin de la Macronie. Personne ne parle à ma place. Il faut en tenir une sacrée couche pour assimiler les Français d'aujourd'hui à toutes les victimes des totalitarismes. Sur ce plateau, ce même plateau, il y a eu Ginette Colinca, survivante des camps de la mort, qui est venue témoigner. Et vous, vous êtes en train de me dire que ce qu'elle a vécu, Ginette Colinca, aujourd'hui.
Eh oui, très en colère hier, Éric Nolot. Alors Valérie, pendant ce temps sur CNews, je ne sais pas si vous avez vu cette séquence qui est beaucoup reprise sur les réseaux sociaux, de « on se fait des bisous, des petits câlins, des petits cadeaux, Christine Kelly,
non,
elle a offert des petits cadeaux à Éric Zemmour, il a offert, parce que c'était son anniversaire,
oui.
Oui, il a offert un petit t-shirt où il y a écrit « D'Artagnan », parce que c'est son chevalier, c'était hier, c'était un moment de télé sur CNews.
J'ai une petite surprise.
Alors attention.
Oui. Je l'ai fait faire uniquement pour vous. Regardez-moi ça.
Alors là,
D'Artagnan, voilà. Hashtag, pouvez-vous lever.
Pouvez-vous vous dévêtir.
Merci beaucoup.
Joyeux anniversaire,
Zemmour. Il manque l'épée quand même.
Oh, vous avez toujours votre épée, c'est votre verbe.
Manque l'image. Voilà.
Comment ?
Il manque les images.
Ah bah oui, mais c'est un zapping radio. Excusez-moi. Ouais. Mais vous pouvez aller voir la séquence sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a un petit bonus que je ne pouvais pas vous mettre, Radio Oblige, où elle lui a offert aussi des chapeaux, vous savez, des chapeaux des mousquetaires. Ah ouais, ça lui va très bien, Eric
Zemmour. Bonne ambiance. Et tout ça. Je vous en offrirai un aussi.
Un petit chapeau.
Voilà. Voilà. C'est tout, c'est fini ?
Bah oui, c'était fini. J'avais, mais non. Voilà, c'est
quoi
fini.
Pourquoi ?
Ah, mais parce que vous ne l'aimez pas.
C'est quoi ?
Alors ça a fait le buzz, vous savez, sur les réseaux sociaux cet été. C'est le remplaçant de futur, c'était pour Marie-Sophie Lacaro et autres présentateurs. Louane, qui a 13 ans, vous savez, et qui joue au présentateur tout cet été.
Oui.
On avait... Pourquoi il vous gêne, cet enfant ?
C'est pas ça, c'est cette espèce de niaiserie de s'extasier devant un enfant qui présente un JT. Il y a eu des centaines de tweets, bon d'accord.
1,5 million de vues.
Oui, non mais c'est... voilà.
Il était l'invité d'Anne-Elisabeth hier.
L'info, ça te passionne depuis tout petit ?
Oui, vraiment tout petit, mais je m'intéresse de plus en plus aux médias, enfin aux chaînes info, plus particulièrement depuis 3 ans maintenant, et j'adore ça.
Tu fais que t'as 10 ans, quoi ?
Ouais.
Tu regardes pas les dessins animés, les cités d'or, tout ça ? Non, c'est
non,
les chaînes
vraiment.
D'info.
Oui, vraiment, depuis tout petit, je regarde les journaux de TF1 et ça m'a toujours passionné.
France 2. France
Télévisions. Regarde où tu es là, tu es sur France Télévisions.
Bon, il a appris à présenter les journaux. Ouais. Il a appris à présenter les journaux sur TF1. Vous avez vu.
Mais c'est le gnangnan absolu. C'est très bien ce qu'il fait, mais bon, 1,5 million de vues pour un gamin qui présente à JT.
Mais vous aimez pas rêver.
J'aime pas les enfants. Je suis comme Gérard Collard. On n'aime pas les enfants, on n'aime pas la nature. On est je plaisante. C'est pas vrai. J'ai des enfants. Tout
mais
va
oui,
bien.
Oh.
Allez.
Mais c'était une séquence d'été qui a fonctionné. Puis c'était un clin d'œil à Marie-Sophie Lacaro. Son successeur est là.
Absolument. Macron à Marseille, on va en parler avec mon invité dans un tout petit instant. Il est policier. À tout de suite.